Vous écoutez France Culture.
Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous débuterons ce journal avec l'appel des États-Unis à mettre fin à la guerre au Yémen. Washington demande notamment que cessent les frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie Saoudite et réclame l'ouverture de négociations de paix d'ici 30 jours. Un changement de ton qui intervient après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
Aux États-Unis, plus de 1500 personnes ont appelé hier le président américain donc à renoncer à ses diatribes incendiaires.
Une manifestation inédite organisée à Pittsburgh dans le contexte tragique de la pire tuerie antisémite de l'histoire des États-Unis, ou quand la communauté juive américaine accuse le président d'avoir banalisé un discours de haine, ce qui est loin d'être l'avis de la communauté juive vivant en Israël.
La Cour suprême du Pakistan a acquitté en appel aujourd'hui la chrétienne Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème. C'était en 2010.
Mais son cas avait, on s'en souvient, suscité l'indignation à l'étranger. Reste que des violences sont désormais à craindre dans le pays, tant l'annonce de ce verdict a suscité la fureur des milieux religieux fondamentalistes.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, première audition aujourd'hui de l'une des plaignantes dans le procès de Georges Tron.
Virginie Etel accuse l'ex-secrétaire d'État à la fonction publique et maire de Draveil, ainsi que son ex-adjointe à la culture Brigitte Gruel, de viol et agression sexuelle en Réunion. Le net ralentissement économique de la zone euro au troisième trimestre, la croissance progresse à son rythme le plus faible en 4 ans, suscitant un certain pessimisme. Enfin, invité de ce journal dans une vingtaine de minutes, Pierre Madec, économiste à l'OFCE, spécialiste immobilier, logement, inégalité. Avec lui, nous évoquerons la réforme de la taxe d'habitation. Et puis à 12h56, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Oui, c'est presque une autre histoire des sorcières qu'on vous propose aujourd'hui avec notre invitée, l'essayiste et journaliste Mona Chollet, qui publie « Sorcières, la puissance invaincue des femmes ». Elle revisite cette figure à la fois littéraire et historique et nous montre comment aujourd'hui encore les préjugés qui concernaient les femmes à l'époque des chasses aux sorcières, continuent à façonner les relations hommes-femmes.
Merci, à tout à l'heure. L'horreur de la disparition brutale du journaliste saoudien Jamal Khashoggi réussira-t-elle à convaincre les alliés de Riyad de réévaluer leurs relations avec le royaume, là où depuis 4 ans les témoignages et les photos révélant toute l'horreur du chaos infernal en cours au Yémen n'avaient, elles, pas suffi à alerter la planète sur l'urgence de mettre fin à ce conflit transformé en pire crise humanitaire dans le monde. Quoi qu'il en soit, hier, après que la France, par la voix de sa ministre des Armées, eut déclaré « il est plus que temps que la guerre cesse au Yémen », quelques heures plus tard, les États-Unis appelaient à leur tour à un cessez-le-feu et à la fin des frappes saoudiennes contre les zones résidentielles. Et même si Paris, comme Washington, exclut toujours toute référence directe à la mort du journaliste critique de Riyad, il ne fait aucun doute que les lourds soupçons qui pèsent à présent sur le rôle du prince héritier Mohamed Ben Salman expliquent en grande partie donc cette nouvelle fermeté. Christian Chesneau, bonjour.
Bonjour.
Il faut dire que les nouvelles révélations parues hier dans la presse britannique rendent plus difficile encore la position d'affidée adoptée jusque-là par les Occidentaux.
Oui, selon le Daily Express, qui cite un proche de Jamal Khashoggi, ce dernier enquêtait avant sa mort sur la possible utilisation d'armes chimiques par l'Arabie Saoudite au Yémen. Ce qui est certain, c'est que la pression monte autour du pouvoir saoudien. Les Occidentaux veulent désormais voir cette guerre se terminer au plus vite, à Washington comme à Paris. Les états-majors ont pris conscience que les Saoudiens ne remporteront pas de victoire décisive, que le conflit allait s'enliser chaque jour un peu plus. D'ailleurs, la coalition militaire dirigée par Riyad n'est toujours pas parvenue à reprendre le port stratégique d'Odaïda sur la mer Rouge. Et puis, les crimes de guerre s'accumulent, dans la mesure où les Occidentaux livrent des armes à Riyad depuis des années, mais aussi du renseignement satellitaire pour cibler des objectifs au Yémen. Eh bien, ils ne veulent plus être associés de près ou de loin aux bavures de l'aviation saoudienne. Bref, l'affaire Khashoggi tombe finalement à point nommé pour eux, pour demander des comptes à l'Arabie Saoudite, aujourd'hui en position de faiblesse sur le banc des accusés.
Alors évidemment, Christian, reste à savoir si le changement de ton de la France et plus encore des États-Unis conduira à un vrai changement de position. On sait que les rebelles houthis sont soutenus par l'Iran, c'est-à-dire la bête noire commune des Américains et des Saoudiens. Dès lors, quel crédit doit-on accorder aux déclarations venues de Paris et de Washington? Sont-elles susceptibles de conduire à terme à une solution politique?
Écoutez, la dernière tentative du médiateur de l'ONU, Martin Griffiths, d'organiser des pourparlers de paix en septembre dernier, s'était soldé par un échec. Les rebelles houthis n'étaient pas venus à Genève. Alors aujourd'hui, la conjoncture est peut-être en train de changer. L'objectif des États-Unis est d'abord d'imposer un cessez-le-feu. Jim Mattis, le patron du Pentagone, estime que l'Arabie Saoudite est prête pour cela. Les Américains ont d'ailleurs des moyens de faire pression sur Riyad, qui dépend totalement de Washington pour sa sécurité. Reste à savoir quelle sera la réaction des rebelles houthis qui contrôlent toujours Sanaa, la capitale yéménite, car les États-Unis exigent d'eux qu'ils se retirent de la frontière saoudienne et qu'ils stoppent leur bombardement des villes frontalières. Il y a enfin le rôle de l'Iran qui soutient les houthis. Les Iraniens vont-ils monnayer cette carte yéménite pour obtenir des gains dans d'autres dossiers? On verra dans les prochaines semaines. En tout cas, Thomas, la guerre au Yémen ne va pas s'arrêter d'un coup de baguette magique, mais les chances d'enclencher un processus de paix n'ont jamais été aussi grandes.
Merci Christian Chesneau. En Afghanistan, au moins 6 personnes ont été tuées et 3 autres blessées aujourd'hui lors d'un attentat suicide perpétré devant l'entrée de la plus importante prison du pays, à Kaboul. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais l'établissement pénitentiaire est connu pour abriter plusieurs centaines de détenus, dont un certain nombre d'insurgés talibans. Et puis toujours en Afghanistan, un hélicoptère de l'armée s'est écrasé ce matin dans l'ouest du pays, tuant 25 personnes, les 2 pilotes et les 23 passagers. Un porte-parole du gouverneur de la province de Farah, où s'est produit le crash, a mis en cause les mauvaises conditions météorologiques. En revanche, les talibans affirment, eux, avoir abattu l'hélicoptère. Venu se recueillir dans la synagogue de Pittsburgh, où un tireur antisémite a abattu 11 fidèles le week-end dernier, Donald Trump a été accueilli hier par des manifestants qui se sont opposés à sa visite. Pourquoi ? Non pas qu'ils accusent Donald Trump lui-même d'antisémitisme, ce serait évidemment absurde. Sa fille Ivanka est convertie au judaïsme et Israël n'a jamais bénéficié d'un tel soutien de la part de la Maison-Blanche. Non, ce que reprochent à Donald Trump ses détracteurs, et notamment nombre de rabbins aux États-Unis, c'est d'avoir désinhibé l'extrême droite avec ses diatribes incendiaires, son nationalisme blanc, son dédain également, voire son hostilité pour les minorités et les réfugiés. C'est ainsi que la tuerie de Pittsburgh a donc élargi un peu plus encore ce fossé qui sépare aujourd'hui les communautés juives américaines d'un côté et celles de l'État d'Israël de l'autre, de sorte que lorsque Trump est aujourd'hui violemment critiqué par les juifs de Pittsburgh, les représentants du gouvernement israélien, eux, le soutiennent pointilleusement. C'est une correspondance à Jérusalem signée Étienne Monin.
Et ce qu'il faut savoir pour comprendre la lente et régulière coupure qui s'installe entre les communautés juives des États-Unis et l'État d'Israël, c'est que la pratique du judaïsme n'est pas la même d'un côté et de l'autre aux États-Unis. Le courant dit libéral, qu'on pourrait qualifier de progressiste, est très important. En Israël, les clés du judaïsme ont été confiées au courant orthodoxe beaucoup plus rigoriste. Depuis presque 2 ans, la coupure entre les deux courants est devenue franche et nette. Les religieux d'Israël ont refusé une place aux libéraux américains. C'est un rejet de leur courant qui s'est même manifesté cette semaine après la tuerie de Pittsburgh. Cela, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la rupture politique entre des juifs américains modérés et un gouvernement israélien radical qui poursuit la colonisation et qui maintient le statu quo sur l'occupation. Malgré les gestes du gouvernement israélien, la fusillade de Pittsburgh a remis sur la table ses divisions dans un contexte de très forte émotion. Et hier, c'est Donald Trump en personne qui a incarné la rupture, rejetée par une partie de la communauté de Pittsburgh, défendue par les représentants du gouvernement israélien, parmi lesquels l'ambassadeur israélien aux États-Unis ou le ministre d'extrême droite de la culture, accusé ce matin par la presse de gauche en Israël de payer leurs dettes vis-à-vis du président américain sous forme d'allégeance après le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem.
Et concernant toujours les États-Unis, Donald Trump, lequel tente de placer l'immigration au cœur des débats de la dernière semaine de campagne électorale pour les midterms, a déclaré hier dans une interview qu'il souhaitait mettre fin par décret au droit du sol, ce principe constitutionnel qui stipule que tout enfant né sur le territoire américain a la nationalité américaine. En d'autres termes, et le cas échéant, le président remettrait en cause un principe majeur du droit inscrit dans le 14e amendement de la Constitution. Seule certitude, pour l'instant, les annonces du président américain relatives à la lutte contre l'immigration illégale s'accumulent, puisque la veille déjà, il avait fait savoir que 5000 militaires supplémentaires seraient envoyés d'ici à la fin de la semaine à la frontière avec le Mexique. Parce qu'elle avait bu de l'eau dans un puits réservé aux musulmans, Asia Bibi, chrétienne, avait déjà commis l'irréparable. Mais en osant répondre à celle qui l'accusait d'avoir ainsi sali l'eau, cette mère pakistanaise de 5 enfants avait qui plus est été accusée de blasphème, un acte passible sur place de la peine de mort. Condamnée en 2010 à la peine capitale, elle avait depuis fait appel de cette décision devant la Cour suprême, laquelle a décidé aujourd'hui d'annuler sa condamnation à mort et ordonner sa libération. Valentin Riglet-Brussy, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors la nouvelle a été accueillie dans la joie par les chrétiens du monde entier. En revanche, elle menace d'attiser la colère des milieux religieux fondamentalistes.
Oui, c'est un verre d'eau qui a provoqué une tempête et elle dure depuis 8 ans dans ce pays à grande majorité musulmane où la loi sur le blasphème fait office d'alpha et d'oméga pour les fondamentalistes pakistanais. Rappelons que c'est un pays où l'islam, pratiqué par 97% de la population, est la religion d'État. Alors il faut revenir en arrière pour mesurer combien l'affaire de cette paysanne issue d'une famille très pauvre et mère de 5 enfants a cristallisé les opinions. D'abord au Pakistan même, puisqu'un ancien gouverneur du Pendjab a été abattu par son propre garde du corps parce qu'il avait pris la défense d'Asia Bibi. Et c'est d'ailleurs suite à la condamnation et à la pendaison en 2016 de ce garde du corps que s'est créé le TLP, un groupe religieux islamiste radical devenu depuis un parti politique. Sur le plan international, Asia Bibi avait reçu le soutien du Vatican, d'abord de Benoît XVI, puis du pape François. La maire de Paris, Anne Hidalgo, l'avait élevée en 2015, elle au rang de citoyenne d'honneur de la ville de Paris. L'acquittement de cette femme chrétienne a en tout cas été très mal reçu par les fondamentalistes religieux qui dénoncent une décision injuste, cruelle, détestable, car contraire à la charia. D'ailleurs, quelques heures après le verdict, des manifestants se sont rassemblés dans plusieurs endroits du pays, ont bloqué des artères, brûlé des pneus. La capitale Islamabad a été placée sous haute sécurité avec des barrages sur les routes. Certaines écoles ont même été fermées. Quel avenir pour Asia Bibi? D'abord, sa libération dans quelques jours et probablement un départ vers l'étranger. Si l'on en croit sa famille réfugiée à Londres, Asia ne peut pas rester au Pakistan avec cette loi justement sur le blasphème.
Merci Valentin Riglet-Brussy. Le continent européen continue d'être frappé par une vague de mauvais temps, parfois meurtrière, en Espagne, en Italie, en Slovénie, en Croatie, mais aussi en République tchèque, en Autriche, sans oublier la France. Quand les uns ont à subir de fortes montées des eaux, les autres affrontent des vents violents ou se retrouvent surpris par d'abondantes chutes de neige. Ce matin, dans l'Hexagone, un peu moins de 40 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Et pendant ce temps, les économistes se demandent quel vent mauvais a bien pu souffler sur la zone euro. Ambiance morose, confiance dégradée, morale en berne. Selon une estimation publiée hier par Eurostat, l'Office européen des statistiques, la zone euro a dégagé une croissance en deçà des attentes au troisième trimestre, plus 0,2%, soit deux fois moins que sur les deux trimestres précédents. Il s'agit surtout du plus bas niveau connu depuis 2014. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors comment explique-t-on ce ralentissement inattendu?
Inattendu et jugé décevant par tous les analystes. Notons au passage que la France, cette fois, ne s'en sort pas trop mal avec un PIB en hausse de 0,4%. C'est donc mieux que la zone euro dans son ensemble, laquelle doit ses chiffres essentiellement aux mauvais résultats de l'Italie et de l'Allemagne. Ce que les économistes mettent en avant outre-Rhin, c'est d'abord un phénomène ponctuel, à savoir les difficultés de l'industrie automobile, notamment parce que les nouvelles normes européennes anti-pollution, entrées en vigueur en septembre, ont requis des adaptations des constructeurs et désorganisé la production automobile. Les résultats de la croissance allemande seront connus mi-novembre, mais de nombreux économistes s'attendent à une stagnation. Comme cela a été le cas en Italie, le pays connaît une croissance nulle depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition populiste. On est donc loin des prévisions très optimistes, 1,5% de croissance en 2019, sur lequel le gouvernement a basé son budget. L'arrêt du PIB est conjoncturel et ses chiffres étaient attendus, a commenté le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, expliquant qu'il ne reviendrait pas sur son budget, budget autour duquel l'Italie est en train de batailler avec Bruxelles. La Commission européenne l'a rejeté, le jugeant déjà largement hors des clous européens. Voilà donc qui pourrait renforcer l'instabilité dans une zone euro déjà touchée par les tensions commerciales entre Washington et Pékin et les remous liés aux négociations du Brexit. Toutes ces incertitudes avaient déjà poussé en juillet la Commission européenne à revoir à la baisse sa prévision de croissance à 2,1%, un chiffre qui paraît désormais compliqué à atteindre. Bruxelles doit présenter le 8 novembre ses nouvelles prévisions économiques.
Merci Catherine Pétillon. L'avenir de l'usine Ascoval de Saint-Saulve, menacée de fermeture, était au cœur d'une réunion cruciale aujourd'hui entre le gouvernement, les représentants de l'entreprise ainsi que les salariés dans l'attente d'un feu vert au projet de reprise proposé par le groupe Altifort. Le cabinet d'experts a jugé le projet de reprise crédible et viable, offre jugée solide également par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, lui préside aujourd'hui une table ronde sur la réforme de la taxe d'habitation. Et pour en parler, invité de ce journal, Pierre Madec, économiste à l'OFCE, spécialiste immobilier, logement, inégalité. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Marie Viennot. Bonjour Marie.
Bonjour.
Une première question, monsieur Madec, la suppression de cette taxe d'habitation est la promesse phare de baisse d'impôts pour les ménages. Le gouvernement la présente comme une mesure en faveur du pouvoir d'achat. Quelle est votre analyse ?
En effet, c'est la principale mesure du programme présidentiel en termes de pouvoir d'achat pour les ménages. C'est 10 milliards d'euros à l'horizon 2020, ce qui représente pour les 17 millions de ménages bénéficiaires un gain à attendre à l'horizon 2020 de l'ordre de 550 euros par ménage. C'est énorme.
Une question de Marie.
Alors justement, le gouvernement se défend d'avantager les plus riches. C'est vraiment la communication qui a lieu en ce moment depuis cet automne. Mais il a dû finalement étendre la suppression de la taxe d'habitation à tous et toutes pour ne pas se faire retoquer par le Conseil constitutionnel pour non-égalité devant l'impôt. Une mesure qui devait donc être ciblée sur les classes moyennes devient finalement surtout avantageuse pour les ménages les plus aisés. Vous avez fait justement, Pierre Madec, les calculs.
Alors, il y a deux temps dans la réforme. Il y a en effet à l'horizon 2020 où les 80% de ménages, qui en fait sont pas 80% mais plutôt 65%, parce qu'un certain nombre de ménages étaient déjà exonérés de taxes d'habitation avant, mais à l'horizon 2020, 80% des ménages ne paieront plus de taxes d'habitation. À partir de 2020, il y a une nouvelle mesure qui, elle, n'était pas présente dans le programme présidentiel, qui vise à exonérer les 20% de ménages restants de la taxe d'habitation. Quand on regarde, ça fait à peu près 6,5 milliards d'euros pour ces 20% de ménages-là, donc c'est-à-dire les deux tiers du gain à attendre pour 80% des ménages, deux tiers de ces gains se concentrent sur les 20% de ménages les plus aisés. Et si on regarde uniquement les 5% de ménages les plus riches, on voit que la deuxième phase de la réforme devrait se traduire par un gain de l'ordre de 1200 euros par ménage par an. Donc il faut se rappeler les 550 euros en moyenne pour les 80% de ménages. On les met au regard des 1200 euros à attendre. On est sur des montants qui sont supérieurs, par exemple, aux gains à attendre de la réforme de la fiscalité du capital et de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique. Donc, d'une mesure très ciblée sur les classes moyennes, on passe à une mesure qui va, en effet, favoriser très largement les ménages les plus riches.
Et donc, pas d'effet redistributif aussi de ce côté-là?
Un effet redistributif, qui s'annule, mais c'est surtout... Bon, après, il y a la question de la compensation. Comment on finance? On voit qu'on a déjà du mal à financer les 10 milliards d'euros pour 80% des ménages. Comment on finance ces 6,5 milliards d'euros supplémentaires? Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus.
Alors, ce matin encore, Gérald Darmanin, et ils le font depuis quelques temps, a voulu rassurer les élus locaux sur le fait que l'État compenserait intégralement les recettes fiscales qui ne seront plus perçues du fait de la suppression de cette taxe d'habitation. Est-ce que c'est aussi simple à faire qu'à dire? Vous comprenez le scepticisme des élus locaux?
C'est extrêmement compliqué. Ce que dit l'État et le gouvernement, c'est qu'on va compenser la taxe d'habitation à son montant de 2017. Donc c'est-à-dire que en 2017, la taxe d'habitation hors résidence secondaire, c'était à peu près 16,5 milliards d'euros, 17 si on veut. Donc en 2020, en 2021, en 2022, on compensera la taxe d'habitation à hauteur de 2017. Mais il y a un certain nombre de communes où la taxe d'habitation, c'était dans l'actualité ces derniers temps, la taxe d'habitation a augmenté. C'est-à-dire que les communes ont décidé, parce que elles ont eu une baisse de leur dotation notamment, donc elles ont décidé d'augmenter leur taux, et donc le montant de taxe d'habitation perçu théoriquement en 2018, et c'était supérieur à celui de 2017. La question de savoir qu'est-ce qui va se passer en 2020, en 2021, en 2022, elle est importante puisque soit il va y avoir une perte sèche pour les communes,
celles qui auraient augmenté
leur taux, puisqu'elles seraient compensées uniquement à hauteur de 2017 et on supprimerait totalement la taxe d'habitation, soit il y aurait un reliquat pour les ménages qui, eux, continueraient à s'acquitter d'une taxe d'habitation qui correspondrait à la différence entre celle de 2017 et celle de 2018. Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus.
Alors, une autre chose, vous dites, on n'avait pas trop d'informations, mais on peut quand même essayer de faire des projections. Si cette suppression de la taxe d'habitation est totalement compensée par l'État, donc je rappelle les chiffres aussi, hein, parce que c'est quand même des chiffres importants, 3 milliards pour le budget 2018, 4 milliards en 2019, 10 milliards en 2020, 16 milliards et demi en 2021, et là, on compte pas justement ce que vous venez de dire sur les taxes d'habitation qui auraient été augmentées. Mais donc, si l'État compense, en fait, bon, l'État, c'est nous et les entreprises qui le finançons. Donc, finalement, c'est nous qui compensons nous-mêmes notre baisse de la taxe d'habitation, enfin, la suppression de notre taxe d'habitation. Est-ce qu'on sait comment, enfin, ça va être fait?
Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'on a besoin, à l'horizon 2020, de trouver 10 milliards d'euros pour compenser la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Ce qui s'est passé, par exemple, en 2018 est intéressant. C'est-à-dire que quand vous prenez l'ensemble des mesures qui visent à augmenter le pouvoir d'achat des ménages, en fait, elles ont, dans l'ensemble, un effet neutre. Alors qu'à l'intérieur, vous avez 3 milliards de taxes d'habitation qui sont directement injectées dans le pouvoir d'achat des ménages. Donc, comment on a fait pour financer ces 3 milliards? On a augmenté la fiscalité écologique, on a augmenté la fiscalité sur le tabac, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer en 2019? il y a un quasi-gel des prestations sociales ou des pensions de retraite qui va servir en partie à financer la mesure de taxe d'habitation, qui va aussi servir à financer d'autres mesures. Mais on est les mesures de baisse de la fiscalité et notamment de la taxe d'habitation se traduisent la plupart du temps soit par une augmentation de la fiscalité indirecte, soit par une baisse d'un certain nombre de prestations sociales. Donc il ne faut pas se leurrer, il y aura en effet des ménages qui seront gagnants, mais la baisse de la dépense publique telle qu'elle est actée par le gouvernement se traduit aussi par un certain nombre de perdants.
Alors juste une dernière question, puisque vous êtes aussi spécialisé dans l'immobilier. Il y a des chiffres qui ont été publiés ce début de semaine et qui montrent que pour le troisième trimestre consécutif, les mises en chantier sont en baisse en France. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter et c'est à cause de quoi ?
Alors il faut évidemment s'en inquiéter, il faut aussi relativiser un petit peu parce qu'on sait qu'on a eu une année 2017 qui était très dynamique sur le marché de la construction et donc de fait le rebond qu'il y a pu y avoir en 2017 a tendance à se tasser un petit peu en 2018, mais il faut lier ça directement d'une part avec un pouvoir d'achat des ménages qui a été moins dynamique en début d'année et puis aussi par les discussions autour du projet de loi Élan qui là maintenant a été voté et qui demande des efforts budgétaires très importants aux bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux sont des investisseurs très importants sur le marché immobilier, représentent un effet de levier également important parce que quand sur des opérations de logement collectif en zone tendue, vous avez besoin de produire du logement social et si vous produisez pas de logement social, en fait c'est toute l'opération qui ne se fait pas et donc la fragilisation des acteurs du secteur social se traduit tout de suite immédiatement par une baisse des permis de construire et en effet c'est assez inquiétant.
Merci Pierre Madec, merci économiste à l'OFCE, je le rappelle, d'avoir été en direct avec nous et merci à Marie Viennot. Après le plan pauvreté, après le plan santé et avant le futur plan contre les violences dans les salles de classe, le gouvernement présentait ce matin son plan hiver pour les sans-abri et les mal logés. Comme l'an dernier, 14 000 places supplémentaires seront ouvertes pour la saison froide. Il y aura aussi plus de maraudes et 5 millions d'euros de subventions pour les associations. Un effort que le gouvernement estime sans précédent et pourtant, selon Florent Guéguen de la FNARS, la Fédération Nationale des Acteurs de Solidarité, ce plan mérite à peine la mention passable.
Même s'il y a une meilleure anticipation, même s'il y a un renforcement financier des équipes de maraude, le fait est que le dispositif d'hébergement qui sera proposé, c'est-à-dire 136 000 places d'hébergement pérenne, hein, ça ce sont les centres qui sont ouverts toute l'année, auxquels s'ajoutent 14 000 places d'hébergement hivernal, est le même dispositif, peu ou prou, que celui qui a été utilisé, mobilisé l'année dernière et qui s'est montré très très insuffisant. Il y a aussi un recul sur la question de la pérennisation des places d'hébergement. Parce que l'année dernière, au sortir de l'hiver, les associations avaient obtenu la pérennisation de 5 000 places. Or là, cette année, il n'y a pas d'engagement du gouvernement sur la pérennisation des places. Il n'y a d'ailleurs pas de crédit en loi de finances 2019 pour pérenniser de nouvelles places. Donc ce sujet sera le point de mobilisation majeur des associations pendant l'hiver.
Florent Guéguen de la Fédération Nationale des Acteurs de Solidarité répondait à Philippe Randet. La deuxième semaine d'audience au procès du maire de Draveil, Georges Tron, et de son ex-adjointe à la culture, Brigitte Gruel, accusée de viol et d'agression sexuelle en réunion sur deux anciennes employées municipales. Ce matin, les juges et les jurés ont entendu la première des deux plaignantes, Virginie Etel. Compte rendu d'audience signé Florence Turme.
Le président Philippe Couard prévient d'une voix douce « Je suis totalement neutre, mais il m'incombe de mettre en exergue les éléments à charge et à décharge. » Longs cheveux blonds, tout de noir vêtu, bottes à talons plats, Virginie Etel commence par raconter sa première rencontre avec Georges Tron lors d'un entretien d'embauche. Elle lui parle de son intérêt pour l'acupression, il s'exclame enthousiaste « Ah, mais je suis réflexologue !» Il a fait le tour du bureau, poursuit-elle, défait ma bottine, commençait à toucher ma voûte plantaire. Une collègue la rassure « Ne t'inquiète pas, il fait ça à tout le monde. » Vous lui avez dit que son attitude vous dérangeait, intervient le président. Non, c'était mon patron, quelqu'un qui en impose. Puis vient le récit d'un déjeuner de travail et des faits qu'elle dénonce, caresse de la part de Brigitte Gruel, pénétration digitale de la part de Georges Tron. Elle s'interrompt à plusieurs reprises, en pleurs. En droit, précise posément le président, pour que le viol soit constitué, il faut qu'il y ait menace, contrainte ou surprise. Violence, non, reprend Virginie Etel. Mais surprise, oui. La contrainte, c'est peut-être difficile à expliquer, mais n'importe qui de normalement normalement constitué voyait bien que mon corps disait non. Cette scène est selon elle à l'origine d'une première tentative de suicide. Mais Virginie Etel se trompe sur la date. D'autres témoins ont plutôt lié cet événement à sa rupture avec un chirurgien plastique qui l'avait opéré, liaison qu'elle continue à nier aujourd'hui alors que le médecin lui-même l'a reconnue à la barre des témoins. Et dans le contexte, l'épisode ne relève pas de la simple anecdote d'une relation extra-conjugale. Cela fait partie des incohérences du récit, souligne Philippe Couard, ce que la défense de Georges Tron ne devrait pas manquer d'exploiter cet après-midi.
On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui, marqué par les pluies et les orages. L'Aveyron, le Gard, l'Hérault, la Lozère et le Var ont été placés en vigilance orange pour pluie et inondation. Attention également aux rafales de vent violents sur les Cévennes. Enfin, les températures, elles seront comprises en général cet après-midi entre 9 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.